Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très bonne semaine à toutes et à tous et merci de choisir Radio Okapi, la fréquence de la paix. La coalition politique Sauvons la RDC a lancé il y a quelque temps une pétition demandant la démission du président de la CENI. Elle reproche à l'abbé Malou Malou notamment de tenter vouloir violer l'article 197 de la Constitution relatif à la tenue des élections des députés provinciaux au suffrage universel en proposant à la place l'élection au suffrage universel indirect. Autre grief porté contre le président de la CENI, le fait qu'il n'a pas organisé l'audit du fichier électoral comme l'exigent les forces vives de la nation. Par ailleurs, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, propose le couplage des élections locales et provinciales en début d'année 2015. Nous en parlons avec vous et avec notre invité qui est déjà dans ce studio, avec comme question principale, comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez la possibilité de nous appeler au 081 890 6315 ou encore au 081 890 4969. Héritier Sidi Akala sur la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung sous la supervision de Ben Kabamba.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, dans ce programme avec notre invité, Boubois Kalala. Professeur Boubois, bonjour.
Bonjour.
Voilà, un grand plaisir pour nous de vous recevoir encore dans ce studio pour analyser et réfléchir ensemble. Je l'ai dit en début, l'abbé Malou Malou a affiché clairement ses ambitions pour la suite du processus électoral au travers de la feuille de route de la CENI. Alors selon lui, tout doit être mis en œuvre pour boucler les processus entre 2014 et 2016. Alors ses ambitions semblent ne pas être acceptées par une certaine classe politique et autres observateurs. Une pétition contre le numéro 1 de la CENI venait d'ailleurs d'être initiée pour sa démission et selon nos informations, il y a déjà plus de 12 000 signatures qui ont été déjà récoltées. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette actualité?
Je pense que c'est une proposition que le président de la CENI a faite. Cette proposition est soumise à la concertation avec les différents acteurs politiques. Je pense que pour nous, comme Congolais, comme citoyens, il est intéressant que quelque chose bouge du côté de la CENI dans le sens d'organiser ces élections. C'est déjà quelque chose qu'il faut saluer parce que nous savons que les échéances n'ont pas toujours été respectées. Alors cet effort de vouloir réconcilier les différentes échéances, c'est déjà un effort à saluer, même si certaines propositions énervent, ce qui est logique aussi, parce qu'il y a la Constitution, qu'il ne faut pas régulièrement énerver, n'est-ce pas? Et donc, c'est normal aussi qu'il y ait ces différentes réactions. C'est de ces réactions qu'il y aura probablement quelque chose qui pourra être accepté par les uns les autres. Mmh. Donc, personnellement, je trouve ça normal, lorsqu'il y a une proposition qui énerve une disposition de la Constitution ou de la loi, qu'on puisse réagir de cette manière-là, quitte à ce que ceux qui font la proposition, n'est-ce pas, donnent les arguments pour lesquels ils font cette proposition et tout le monde pourra peut-être trouver, n'est-ce pas, des raisons d'accepter ou de rejeter telle ou telle autre disposition. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise chose que les Congolais puissent discuter, parce que tout le monde est vigilant. Vous savez qu'il s'agit des élections. C'est l'occasion pour les gens d'accéder
au pouvoir,
au poste. Donc il est normal que tous les opérateurs politiques puissent être vigilants lorsqu'on parle d'élections.
Alors, le processus électoral à RDC, vous l'avez déjà dit, est toujours entaché de quelques irrégularités dénoncées par les uns et les autres. Donc, on peut dire, chacun est vigilant, tout le monde contrôle tout le monde, tant par les acteurs politiques de la majorité que par ceux de l'opposition. Alors, ce jeu de ping-pong constitue, pour certains observateurs, un obstacle pour l'atterrissage en douceur de ce processus. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, non, vous
c'est
savez.
C'est un jeu démocratique.
Non, non, moi je trouve que dans la démocratie c'est normal, hein. C'est normal que les acteurs politiques avec ceux qui organisent, n'est-ce pas, puissent toujours être en dialogue. Et ces dialogues peuvent même être violents. On comprend, hein. C'est un problème qui mobilise les émotions parfois. Mais ce qui est important, c'est qu'on débouche sur quelque chose qui est crédible. Quelque chose qui puisse donner des élections acceptées par tout le monde, des élections qui nous donnent des dirigeants qui ont la légitimité pour faire leur travail et pousser, n'est-ce pas, les pays à aller de l'avant.
Mais parfois les conditions de l'opposition sont aussi trop dures. Si nous faisons un pas en arrière, en 2006, nous avons vu 2011 où l'opposition exigeait au fait l'audit de fichiers électoraux et cette question n'a pas été résolue. Aujourd'hui, pose encore d'autres préalables, par crainte d'ailleurs, nos analyses sont très bonnes, par crainte d'une éventuelle révision de la Constitution, parce que le fait déjà de changer le mode opératoire des élections, au fait, ça présage déjà au fait de la loi électorale qui pourrait être changée et avec une conséquence logique, la Constitution également. Donc c'est ça la crainte.
Non, c'est normal. Vous savez, le fichier électoral demande d'être révisité, demande que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il y a dedans et que les différents candidat puisse être rassuré qu'il n'y aura pas de faux noms, qu'il n'y aura pas des gens qui n'existent pas, qui viendraient voter. Ça, c'est une crainte tout à fait fondée, mais on doit laisser à ce moment-là, à la CENI, le temps, n'est-ce pas, de réagir, de répondre à cette exigence-là. Et il faut aussi que au niveau du gouvernement, on donne à la CENI les moyens pour concrétiser cela. Si j'ai bien compris, la CENI intègre le fait qu'il y a aussi le recensement qui est prévu. Le gouvernement projette, n'est-ce pas, d'organiser
qui devait en principe commencer déjà le janvier 2014, on allait déployer les équipes, mais cela n'a pas été fait, on ne sait pas, c'est bloqué quelque part.
Il y a un peu de retard, mais ce recensement-là pourrait venir aider, peut-être vider, hein, si pas vider, mais en tout cas diminuer, n'est-ce pas, l'importance de cette question-là du fichier électoral. Donc voilà, ça, c'est important.
Voilà, nous allons prendre, on va ouvrir les standards tout à l'heure, mais laissez-moi vous poser juste une question avant d'accorder la parole aux auditeurs. Il y a l'Église catholique, par les billets de la SENCO, qui vient d'ailleurs de proposer l'organisation des élections locales en début 2015. Au fait, le couplage, comme je l'ai dit, le couplage des élections locales et provinciales en début. Vous avez une réaction? Est-ce que cela pourrait peut-être apaiser les esprits des uns et des autres?
Non, c'est mieux. Quand on couple les élections, on fait l'économie. On gagne de l'argent. Hein, au lieu de déployer deux fois, tout l'équipement, vous voyez, chaque fois qu'il faut organiser les élections, c'est tout un grand dispositif qu'il faut déployer sur le terrain, une grande logistique. Si on peut coupler, c'est une avancée, c'est très important. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que la proposition de la SENCO, c'est une proposition qui rencontre la deuxième alternative de la CENI. La CENI avait fait deux propositions. Mmh. Alors, la proposition qui énerve le plus, c'est la proposition, n'est-ce pas, de changer les modes de désignation des députés provinciaux. Mais il y a aussi la préoccupation du temps. Donc la préoccupation de faire coïncider les différentes échéances au même moment pour alors commencer à organiser les élections de manière régulière, qui est aussi une proposition qui n'est pas bête, mais qui demande que les gens puissent avoir le temps de regarder à froid. Parce que, comme nous l'avons dit, ce sont des débats qui passionnent, qui poussent les gens à réagir dans tous les sens. Alors, je sais que à la CENI aussi, sont habitués, hein. Ils sont habitués. L'avantage avec l'équipe actuelle de la CENI, c'est qu'ils sont toujours en dialogue. C'est-à-dire que malgré tout cela,
les dialogues
n'est pas interrompu. Ils parlent avec les acteurs politiques. Ça, c'est bon. c'est bon de discuter avec les opérateurs économiques, avec les futurs candidats, avec les partis politiques. Ça, c'est très important.
Voilà, selon d'ailleurs nos informations, le président de la CENI se trouvera en ce moment en consultation, même sur le plan national et aussi à l'extérieur, pour au fait expliquer la feuille de route et chercher des partenaires qui pourraient soutenir au fait l'exécution de ces calendriers électoraux. 081 890 6315 pour votre appel, et aussi vous avez la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous accordons la parole au premier auditeur qui est en ligne, Jonas qui est à Lubumbashi. Jonas, bonjour. Jonas, vous êtes avec nous, bonjour. On prend plutôt Papi Kassema qui est à Kinshasa. Papi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Pacifique.
Vous avez la parole, Papi.
Merci de la parole, monsieur. Je pense de signaler de prime abord que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération du Conseil des ministres, à chacune des deux chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié des députés, à une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 personnes s'exprimant par pétition adressée à l'une des deux chambres. Ceci conformément à l'article 218. De toute évidence, monsieur J.R., nulle part dans la Constitution, nulle part plutôt la Constitution donne le pouvoir au président de la CENI ou à la CENI en général de proposer une révision constitutionnelle, soit directement ou indirectement. Car quand M. Labbé Maloma propose que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel indirect, il demande indirectement la révision de l'article 197 alinéa 4 qui dispose que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel direct. C'est ce qui compromet vraiment la suite du travail de l'actuel de la CENI, représentée notamment par M. Labbé Maloma. Quoi qu'il en soit, M. J.R., les élections des députés provinciaux au suffrage indirect ont beaucoup de conséquences fâcheuses à mon égard. À l'occurrence, la fraude, la corruption, pour le caractère vilain de notre démocratie. En plus de cela, l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect favorisera seulement le passage des candidats les plus nantis au détriment des candidats les moins nantis, quelles que soient leurs qualités, leur intelligence, compétence, leur crédibilité vis-à-vis de la population. Ainsi dit, je suis de ceux qui soutiennent que les élections provinciales, locales et municipales soient bouclées.
Oui, donc si je comprends bien, Papy, vous appuyez certains observateurs qui, en fait, pensent que pour consolider, pour aider cette démocratie, hein, notre démocratie qui est encore jeune, il faudrait laisser réellement la population s'exprimer quant au choix de leurs dirigeants, ne pas le faire d'une manière indirecte.
Oui.
Merci beaucoup, Papy.
Naturellement, monsieur le journaliste. D'ailleurs, je peux aller plus loin pour.
Non, mais on n'a plus assez de temps. Donc, on n'a pas de temps accordé. Donc, vous avez déjà épuisé votre, la minute qui vous a été accordée, Papy. On va prendre Franck qui est à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Aussi, au prof qui est là avec vos studios. Ou comme tous les compatriotes avec qui nous échangeons.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Franck.
Et je vous en prie pour la parole. Je vais intervenir en trois petits points. Au premier, c'est concernant la pétition. La préoccupation citoyenne d'initier une pétition est légalement reconnue par la Constitution. Je trouve que le débat ne peut plus se situer au niveau de la pétition ou pas, mais on devrait trancher si les motivations de cette pétition sont fondées et répondent aux préoccupations de la plupart des citoyens congolais. Au deuxième point, c'est la position de l'Église catholique. Je trouve qu'elle est également réaliste et correspond aussi aux attentes d'une bonne frange de la population, vu le poids, la place et aussi l'influence de l'Église catholique en RDC. Et je crois que c'est pour cette raison que l'Église a toujours milité pour accompagner les peuples congolais à acquérir cette culture démocratique en déployant, par exemple, autant de témoins dans des bureaux de vote. Et de trois, c'est une interpellation qui concerne nous, citoyens congolais. Nous devons d'abord nous dépassionner, nous éloigner de nos appartenances politiciennes en vue de placer l'intérêt suprême de la nation au centre. Le plus grand problème chez nous, ce n'est ni l'absence de textes, ni l'absence de structures du pouvoir, mais c'est plutôt la crédibilité des hommes qui doivent veiller à ce que tous ces textes puissent être respectés. Donc, on ne peut pas toujours faire des histoires pour revenir au même endroit. Il y a des préalables pour organiser des élections qui se veulent démocratiques, transparentes et libres. Mais qu'est-ce qui manquerait qu'on autorise l'audit de ces fichiers électoraux? Monsieur le journaliste, dans un pays vaste comme la RDC, mais le recensement, c'est aussi un allant de soi. En 2006, on avait promis, on ne l'a pas fait. En 2011, on ne l'a pas fait. Mais tel qu'on est en train de voir les choses s'organiser, on risque encore d'étendre vers la même situation. On va organiser les élections de manière directe ou indirecte, sans avoir audité les fichiers, sans recensement, pour avoir quel résultat. Et si on ne tient pas compte de tout ce qui s'est dit de part et d'autre, 2011 risquerait d'être encore comme 2016. Et au lieu d'avancer, au lieu de consolider les acquis de la démocratie, on n'aura fait que des surplaces. Mais que servirait-il alors d'organiser des élections si les acquis de la démocratie ne progressent pas? Donc il y a quand même là beaucoup de problèmes dont des problèmes qu'on doit encore revoir. Il y a vraiment une liste de problèmes à revoir si on veut organiser ces élections. Mm-hmm. Je n'ai pas à trancher tel ou tel, mais le problème qui se pose, il y a aussi la crédibilité des membres de ces bureaux. Donc nous avons aussi un problème de la crédibilité des membres. C'est alors qu'il faut d'abord de la transparence, qu'il faut d'abord de la sincérité. Sinon, on n'aura que servi des intérêts d'un groupe en défaveur de l'autre ou un peu comme ça. Donc il y a déjà un peu de soupçons, mais qu'est-ce qui manquerait de céder à ce que la plupart des Congolais exigent comme critère de transparence? Qu'est-ce qui manque s'il n'y a pas autant de choses qu'on veut cacher?
Oui, est-ce que vous pensez, vous, Franck, personnellement, que les initiateurs de cette pétition arriveront avant au résultat et ils feront vraiment l'unanimité?
Je ne sais pas l'influence de leur parti politique, je ne sais pas l'influence de leur communication, mais s'ils peuvent chercher à atteindre des milieux où les Congolais sont vraiment avertis, ils le peuvent bien. Mais là, c'est aussi difficile. Moi, je ne peux pas trancher, ils arriveront ou pas. Mais est-ce que je me pose la question, les motivations de cette pétition sont-elles fondées ou pas? Si elles sont fondées, si elles s'adressent aux Congolais avertis, on aura des résultats. Mais si les Congolais ne s'intéressent pas aussi à ce qui se passe dans leur pays, c'est ça notre problème. Nous avons des gens qui oublient facilement ce qui s'est passé hier. Mmh. Et quand on a des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé hier, on aura aussi de la peine à savoir la direction vers laquelle on est en train de nous diriger.
Merci beaucoup,
Franck. Moi, je ne sais pas trancher oui ou non, mais est-ce que les motivations de la pétition sont-elles fondées ou pas?
Merci beaucoup, Franck. On va prendre Kassamba pour aussi recueillir aussi son option, pour ou contre. Bon, voilà. Alors, Kassamba, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, M. Gilles Longuembo. Bonjour, M. le professeur, l'invité du jour. Bonjour, les auditeurs de la radio Capi.
Alors, comment vous commentez cette actualité?
Oui, les deux propositions de M. l'abbé Malumalu prennent déjà du fait que, avec le suffrage universel indirect, nous avons vu ce qui s'est passé en 2006. Le MLC a été victime de ce système-là en perdant quatre provinces. Provinces de Kinshasa, Bas-Congo, Kasaï occidental. Et le MSA n'a gagné que l'Équateur qui lui a été arraché quelques deux ans plus tard. Nous savons comment les choses se passent chez nous en politique. Avec ce système de suffrage universel pour l'élection, il y aura trop de corruption. Et les gens vont acheter des voix, vont acheter des consciences, et on aura toujours les mêmes personnes qui souvent sont déjà vomies par la population qui reviendront sur la scène politique. Cette proposition-là, il faut que M. Malumalu puisse la retirer, qu'on n'en parle même pas. C'est une mauvaise proposition, puisque ça ne fait que favoriser les gens qui ont l'argent entre leurs mains. Et pour le moment, l'argent, ça se trouve du côté de la majorité. Et puis, je vais ajouter, il y a un adage qui dit, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Ça, c'est un adage très important. Personne n'ignore que Malumalu roule du côté de la majorité. Malumalu est passé partout.
Oui, Kassamba. Oui, Kassamba. Oui, Kassamba. Ça n'engage que vous. Du fait que on sait que c'est quand même une institution citoyenne et on sait comment les élections se sont passées, se sont déroulées pour que nous ayons ces bureaux, les débats qu'il y a eu au niveau du Parlement pour qu'aujourd'hui qu'on puisse quand même apporter quelques reconfigurations au sein de la CENI avec une assemblée plénière. Je crois que le monde opératoire est tout un peu différent par rapport à aux années passées. Donc, je crois que nous pouvons encore être positifs, hein, pour voir positivement les choses pour l'avenir. Merci beaucoup, Kassamba. Vous êtes à Bounia. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jir Lungembe. Bonjour, professeur, l'invité.
Vous avez la parole, Omar.
Merci beaucoup, Jir, du verbe que vous m'avez dit. Je voudrais, comme mon compatriote vienne, compartimenter mon propos à trois questions principales. La première, c'est de savoir est-ce que la démarche du collectif selon la RDC est-elle fondée. Je crois, mon compatriote devient l'a dit, elle est fondée dans la mesure où notre texte suprême, la Constitution, permet à tout citoyen ou à tout groupe de citoyens d'initier une pétition. Mais mon plus grand problème, j'y se pose au niveau de l'opportunité du but qu'il vise, c'est-à-dire le départ de M. l'abbé Malumalu. Nous l'avons dit, c'est le liminaire de notre cogitation, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je pense que les motifs n'est pas apporté dans la mesure où ce dont l'Afrique a besoin maintenant, ou la RDC en particulier, ce n'est pas des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. On se mettrait à changer, déjà changer, mais la solution n'arriverait pas. Je pose une question, comme une vaine question. S'il faut faire partie Malumalu, qui les remplacera? C'est ça la question que je pose à tout le monde. L'important n'est pas de changer des gens. L'important, c'est de dynamiser l'institution qui existe déjà, parce que nul dans ce monde n'a les monopoles de la sainteté, nul ne parfait si ce n'est que Dieu. Alors, on les reproche d'avoir proposé le suffrage universel direct. Mais c'est dit en français, ce n'est qu'une proposition. Il existe plusieurs autres structures pour revendiquer, pour dire on ne veut pas de ça. Il existe un parlement qui doit voter ou pas. Est-ce que c'est vraiment important de les faire partir? Je ne soutiens personne. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Mais je suis réaliste pour dire que faire partie les gens tout le temps ne changerait rien. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Même ceux qui sont en train d'initier cette pétition, si on leur donne la CENI maintenant, garantir à mesure de faire tout. Deuxième question. On lui propose l'audit du fichier électoral. Oui, je suis d'accord, comme tous les Congolais. Mais ils oublient qu'il y a des contraintes financières, logistiques très sérieuses. C'est bien pour faire le recensement. Vous voyez comment les Congolais souffrent. Alors, pour le faire, il faudra qu'on nous laisse le temps. Oui, je ne parle pas de M. Malumalu, mais je parle de l'institution CENI. Ma troisième question principale pour finir. Que faut-il faire pour amener à bon port les élections congolaises? Je voudrais que tout le monde soit conscient. Je voudrais commencer avec les acteurs politiques congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Au lieu de condamner les animateurs des institutions, les individus, il ferait mieux de peaufiner des stratégies pour rendre dynamique. Je crois même Barack Obama l'a dit, ce que l'Afrique a besoin, ce n'est pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Ce n'est pas parce qu'on est de la majorité qu'on doit tout accepter, ou parce qu'on est de l'opposition qu'on doit tout refuser. L'intelligence, c'est mettre son cerveau au service de la communauté, proposer des solutions idoines, parce que les jeunes qui viennent doivent nous servir des modèles. Deuxièmement,
oui, rapidement, Omar.
Que les partenaires puissent allouer des moyens à la CENI. Cette CENI qui, sans moyens, ne peut rien faire. Et pour finir, je pense qu'il faudra renforcer les mécanismes de contrôle. Là, je vais interpeller aussi les parlementaires. Ils n'essayent pas de reviser la Constitution parce que c'est contre l'assentiment populaire des Congolais. Et aussi, je voudrais interpeller les partis politiques. Au lieu tout le temps de demander le départ des gens, il y a un cadre de concertation que la CENI a institué. Autant mieux discuter que vouloir partir. Je ne soutiens personne, mais je voudrais que faire comprendre aux gens, faire partie tout le temps des personnes, ça ne changerait rien. Il faudra plutôt que le Congolais soit conscient et dynamise ses institutions. Je crois là on aura...
Voilà, je crois que ce sera même l'objet du débat qu'on va faire demain dans Parole aux auditeurs, Inch'Allah. On va revenir sur les recommandations des consultations nationales qui en fait tournent autour de pratiquement plus de 500 recommandations. Aujourd'hui, il y a le bruit qui court au niveau de la présidium de comité de suivi. On a juste ressorti 100 recommandations. Voilà, donc on verra un peu pourquoi là, cette réduction des 600 à 100 ou des 500 à 100 recommandations. On fera les débats sur quelques recommandations qui ont été déjà exécutées. Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Nous allons vous accorder la parole dans un instant. Toto Kani, vous êtes à Kinshasa, Olivia Isiro. Mais nous revenons d'ailleurs dans ce studio avec notre invité, professeur Bouiboua Kalala, qui est un analyste politique avec nous dans ce studio. Alors, professeur, on a suivi les uns les autres. Vous avez pratiquement des orientations à donner par rapport à leurs préoccupations.
Bon, vous savez, ces différents intervenants donnent le point de vue qui élève l'échange ou la discussion que nous sommes en train de faire. Ils ajoutent des éléments, ils donnent des conseils, ils donnent des avis. Hein? Bon, par exemple, quand on prend le dernier là, Omar, je crois que ce qu'il dit est quand même important. Ça veut dire que chacun de nous doit se mettre dans la position de contribuer à une solution durable. Hein, parce que jeter la pierre sur les gens, ce n'est pas toujours une bonne stratégie. Peut-être qu'il faut contribuer avec une contribution, hein, avec une proposition, comme la CENCO l'a fait. Hein, la CENCO n'a pas que fait la critique, la CENCO a aussi fait une proposition pour améliorer. Je crois que c'est de cette manière-là que les différentes formation, les différentes forces qui ont des craintes de voir, n'est-ce pas, les élections prochaines, locales et provinciales, être, n'est-ce pas, perturbées, devraient agir. Ils doivent faire des propositions à la CENI pour que la CENI intègre aussi d'autres pistes. Hein? Alors, à l'issue de cet exercice, entre ces différentes forces, ces différents partis politiques, ces différents groupes, et la CENI, je crois, il sortira de cet échange-là quelque chose qui pourra aider le pays. Donc, je crois que ce que les intervenants donnent, c'est quelque chose de bon, c'est une bonne contribution, et nous espérons que les uns et les autres pourront en faire, n'est-ce pas, tirer quelque chose de bien dans ce que l'on dit. Parce qu'il n'y a personne qui a le monopole de la vérité.
Donc, Omar l'a dit également, il n'y a personne qui a le monopole de la sainteté, donc la sainteté, n'importe qui qu'on peut donner, on
voilà, revient là dans les mêmes voilà, histoires. Donc nous pouvons toujours enrichir, hein, peut-être le bureau de la CENI pense améliorer avec cette proposition-là.
Oui, il y a un auditeur qui a dit la pétition, elle est d'abord fondée, parce voilà. Que la constitution...
C'est le droit,
voilà. Et puis, il y a cette opportunité qu'on est en train de saisir, vous l'avez dit, professeur, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, plutôt faire des propositions, voilà. Que demeurer, en tout cas,
cramponner dans... Une opposition, quoi, pour une opposition. C'est mieux d'évoluer, vous savez... Si on a mis en place des institutions d'appel à la démocratie, c'est pour que, justement, aider la démocratie à s'enraciner dans notre pays. Donc, ce ne sont pas les institutions qui viennent nécessairement avec des positions partisanes, mais comme aussi sont des questions qui intéressent tout le monde, il peut arriver que les influences qu'on exerce sur ces dirigeants de ces institutions d'appel à la démocratie, n'est-ce pas, fassent soupçonner tout ce qu'on fait comme proposition. Mais pour l'instant, il s'agit des propositions, et puis il y a échange entre les hommes politiques, le parti politique, les opérateurs politiques avec la CENI. Donc dans ce sens-là, je pense que la CENI va intégrer aussi ce qu'il donne, et il y a aussi un autre élément important, c'est le rôle du Parlement. Le Parlement doit faire son contrôle aussi sur les différentes institutions du pays. Hein, c'est leur travail, ils doivent faire leur travail. Les parlementaires doivent aussi pas seulement voter les lois, ils doivent contrôler. Ils doivent contrôler ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent les affaires de...
Alors pour le cas d'espèce, quel peut être l'apport du comité de suivi des recommandations des consultations nationales par rapport à cette question?
Bon, les concertations, je crois...
Parce que parmi les 100 recommandations publiées récemment par le Présidium, on se rend compte qu'il y a la question de la CENI aussi, est là parmi les recommandations.
Est à l'ordre du jour, parce que, bon, il faut faire la cohésion. La cohésion, c'est faire que, dans l'avenir, nous ayons des élections crédibles qui ne sont pas contestées par les gens comme ça. C'est important qu'on arrive à ce que...
Est-ce qu'on y arrivera ?
Il faut qu'on y arrive. C'est-à-dire tous les Congolais doivent travailler à cela. Hein, vous savez, c'est un problème de volonté de nous tous. C'est pas la volonté d'un individu. Hein. Vous savez, les démocraties se battent comme ça, hein, avec des pressions des gens, avec la contribution de tout le monde. Et petit à petit,
parce
on va améliorer.
Parce que, professeur, qu'on ne se le cache pas, aujourd'hui, la question qui fâche, c'est la révision constitutionnelle. Parce que toutes ces manœuvres, tu vois, des personnes, des hommes avisés, des observateurs avertis, craignent ou redoutent cela.
Bon, malheureusement, le Congolais...
C'est pourquoi ils expriment sa part, soit des pétitions, soit d'autres exercices démocratiques.
Mais après 32 ans de règne d'IMPR dans notre pays ici, on est arrivé à intégrer qu'il faut chaque fois réviser. Quand les problèmes se posent, au lieu de trouver des solutions, les Congolais trouvent toujours facile de réviser les textes. Donc au lieu de s'efforcer à se conformer aux textes, nous préférons souvent enlever les textes là qui créent problème. Et ça, c'est une habitude que nous devrions essayer de décourager. Parce que nous avons une constitution qui a été soumise au référendum, qui est devenue en fait la constitution de tous les Congolais. Alors il ne faut pas que tous les jours on révise cette constitution. On va retomber dans la constitution de la Deuxième République, qu'on révisait tout le temps, dès que les maréchals voudraient enlever telle disposition, allez, on s'assoit, on révise. C'est cette crainte-là qui fait que quand on parle de nouveau de réviser la constitution, les gens revoient de nouveau cette scène-là. Hein, je crois.
Oui, parce que nous avons suivi à la télé hier certains acteurs politiques qui, au fait, ne cachent plus déjà leur position, ils ne la cachent plus. Ils ont exprimé ça clairement que voilà, nous allons vers la révision constitutionnelle. D'ailleurs, ce sera un débat pour voir, bon, comme c'est pratiquement la loi fondamentale qui a été soumise au référendum, nous ferons peut-être une émission pour voir le pour et le contre hein, sur cela là où nous allons. Alors, on va repasser à nouveau de l'autre côté des standards et à Olivier qui est à Isiro, Arsène à Kikuit et puis Totokani à Kinshasa. Totokani, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
Merci de la parole. Je pense que les mandats politiques de l'opposition via l'honorable Fayoulou et la démarche de la CENCO me donnent un sentiment de satisfaction tout en étant perplexe. La satisfaction car ceci est une preuve parmi tant d'autres que l'élan démocratique dans lequel le pays s'est engagé est irréversible, car chacun est libre de penser comme il l'entend. Concernant l'Église catholique, les évêques ont produit une bonne réflexion qui nécessite que la CENI s'y penche tout en tenant compte de l'équilibre politique et des réalités financières du trésor public. Cependant, je suis quelque peu perplexe vis-à-vis de la démarche de l'honorable Fayoulou, car elle vise la rupture de l'équilibre établi. Cette frange de l'opposition doit cesser de nous conduire de façon anachronique en cherchant à avoir même ce qu'elle n'obtiendra point. Alors, le temps du vote des cadres de la CENI étant dépassé, cela serait une simple distraction que d'y revenir de façon dilatoire. À l'heure actuelle, voici ce que devrait faire réellement l'opposition si elle compte contribuer de manière significative à l'émergence démocratique dans notre pays. 1. Mutualiser les intelligences en vue d'élaborer un programme commun de gouvernance à proposer à notre peuple. 2. Considérant le fait que l'unanimité n'est toujours pas de mise en démocratie, trouver donc par consensus une personnalité qui fédérerait les espoirs de l'opposition et du peuple congolais. Ce qui serait, la personnalité serait l'interface vis-à-vis du gouvernement afin de se présenter à la présidentielle de 2016 avec toutes les chances de gagner. De 3, recourir au forum des partis politiques par d'éventuelles propositions par truchement de leurs candidats qui sont...
Totokani, les problèmes au niveau de l'opposition ne se posent plus parce que nous avons tous suivi l'actualité. Ils sont arrivés à désigner l'autorité morale de l'opposition, hein, qu'ils appelaient le coordonnateur. Donc
oui,
le problème ne se pose
bien,
plus.
C'est
ne se pose même plus.
On en a toujours eu l'habitude.
bien que l'autre partie n'a pas...
Ils vont rentrer en contradiction entre eux. Je voudrais bien que cela se fasse de cette manière, mais que cela soit d'une façon plus durable. Parce qu'agir autrement serait préparer inéluctablement un échec aux échéances à venir, et on crierait alors à la fraude pendant que c'est un déficit de stratégie.
Voilà.
Donc, en ce qui me concerne, je pense que tous les courants de l'opposition doivent s'unir réellement, se tolérer réellement, se parler franchement et faire preuve qu'ils sont indemnes des germes des dictatures. Alors, les opposants congolais sortiront, je crois, agrandis, si et seulement si ils surmontaient leur propre divergence d'une manière efficace. Autrement, je vois, en tout cas, je vois la majorité actuelle gérer encore la cité pendant plus longtemps, avec ou sans Joseph Kabila. Je vous remercie.
Merci, Toto Kani, d'avoir appelé de Kinshasa, et vous êtes encore très, très, très trop optimiste, et vous avez proposé même des pistes, hein, et surtout que l'heure n'est plus à la distraction. Il faudrait plutôt que tous les efforts soient focalisés sur les échéances de 2016, si nous voulons, en tout cas, si, au fait, ceux qui, les initiateurs de cette pétition, voudraient bien, au fait, prendre les commandes de la chose publique. Merci beaucoup, Toto Kani, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Olivier qui est ici. Olivier, bonjour.
C'est Olivier Tande à ici. Je salue les journalistes, je salue le professeur qui est là et tous les auditeurs de la radio Capi.
Votre point de vue.
Ok, merci de m'accorder la parole. Je dois commencer à analyser d'abord les plateformes Sauve le Congo. Elles cherchent la démission de M. Malumalu, c'est bien. Mais je me demande, est-ce que cette plateforme est seulement à Kinshasa ou à l'intérieur du pays? Parce qu'il n'y a aucun signe qui témoigne que cette plateforme se retrouve à corps dans les coins que moi je me retrouve, et à plus forte raison dans les faits fonds du Congo. Et je vais analyser aussi les points de vue des évêques du Congo. C'est bien, c'est dit qu'au début de 2015 qu'on puisse organiser les élections. Mais ce sont toujours les mêmes évêques, et nous également, nous avons décrié que les élections de 2011 aient beaucoup d'irrégularités. Alors, quant à moi, je pense que la CENI devrait d'abord commencer par réviser le fichier électoral pour rassurer tous les candidats, le parti politique et nous également les électeurs, et que chacun puisse avoir déjà une idée par rapport au sondage de la République. Et de là, ils devront alors projeter la date pour la tenue des élections, afin d'éviter ce que nous sommes en train de décrire à présent. Voilà un peu ce que moi je comptais dire, et je profite à cette occasion pour poser directement une petite question à l'invité qui est là. Monsieur le professeur, entre les deux propositions, laquelle serait mieux à voir la situation politique actuelle de la RDC, pour que nous puissions construire un pays plus beau qu'avant, comme cela est dit dans notre lune nationale?
Merci beaucoup.
La deuxième question est de savoir, entre les deux toujours propositions là, laquelle la CENI peut prendre plus en considération à voir la situation régionale de notre République? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Olivier. Professeur, parce que c'est une préoccupation directe. Que répondez-vous à Olivier?
Bon, mon cher ami Olivier, vous savez, la volonté, lorsqu'on élit les représentants du peuple, l'idéal, c'est que ce soit le peuple lui-même qui désigne ses dirigeants. Ça, c'est l'idéal. Alors, lorsqu'on cherche des formules indirectes, souvent, c'est par facilité. Lorsqu'on pense que ce sera difficile de réunir tout le monde pour organiser ces élections, alors, par facilité, on imagine cette formule-là. Donc, si moi, je devrais donner du point de vue de la préférence, c'est que les peuples congolais élisent les députés provinciaux au suffrage universel direct comme on le fait maintenant. Ça permet à ces députés-là, une fois élus du peuple, de désigner aussi à leur tour les gouverneurs de province et les sénateurs. Donc, si ces gens, les députés provinciaux, sont eux-mêmes élus au suffrage indirect, ils vont aussi encore aller élire les autres à l'indirect, connaissant comment l'indirect s'est passé avec l'élection des gouverneurs, des sénateurs, etc. On a vu que c'est l'argent qui a joué pour devenir sénateur la fois passée. Donc, les gens qui avaient l'argent ont réussi à se faire élire facilement. Alors que lorsque le peuple lui-même doit désigner ses dirigeants, le peuple est vigilant, le peuple veille. Et c'est pas facile. Donc, si nous voulons consolider notre démocratie, la piste, la voie idéale, c'est qu'on apprenne à tous les Congolais à user du droit que tous les citoyens de ce monde ont de désigner leurs dirigeants. Alors, maintenant, par rapport à la proposition que la CENI a faite, ce n'était qu'une proposition, ce n'est pas encore quelque chose qui est décidé, ils ont proposé, et l'Église catholique, la CENCO, a pris plutôt l'option de garder les suffrages universels directs, mais de coupler les élections locales avec les élections provinciales, ce qui est beaucoup mieux. Voilà un peu ce que je peux vous suggérer.
Voilà, on va prendre Arsène qui est à Kikwit et Michel est à Matadi. Arsène, bonjour.
Arsène, bonjour à tout le monde.
Oui, votre point de vue.
D'entrée du jeu, mon avis est d'abord lancé vers M. Fayou. M. Fayou nous a initié une pétition. Mais quels sont les aboutissants de cette pétition? Est-ce que c'est juridique ou c'est juste pédagogique? Ça, c'est un objet à réfléchir. Je crois que notre Parlement est là pour prendre les histoires en main et savoir que faire avec. La pétition, en soi, doit être plus juridique que pédagogique. Ça, c'est mon avis. Bon. Ensuite, la réaction de l'épiscopat. L'épiscopat a fait une réaction. Oui, c'est pédagogique. Et cet épiscopat a toujours réagi par le comportement de nos acteurs politiques vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, nous allons tout droit vers les élections. Mais ce que je dois préciser, c'est que tout le temps, nos interventions, que ce soit les interventions de la population à la radio Capi, que ce soit les interventions de la population à travers tout ce qu'il y a comme organisation de la société civile, les policiers ont toujours fait fi à toutes ces réactions. Pourtant, ce sont des réactions tout à fait pédagogiques. Nous, ce que nous avons de plus important, c'est de changer le comportement et changer la manière de diriger cette nation. Parce que les intérêts que nous avons à réaliser, ce sont les intérêts de tous les Congolais. Donc, pour moi, il faut en premier lieu privilégier les intérêts du Congo et des Congolais. Les intérêts particuliers, les intérêts des politiciens, ça en tout cas, ça ne nous sert à rien. Nous l'avons fait depuis plusieurs années, voilà bientôt plus de 50 ans que nous sommes indépendants, nous n'arrivons pas à faire de notre nation une nation respectueuse, une nation à la taille d'un éléphant. Aujourd'hui,
oui, Arsène,
nous sommes presque bannis.
Arsène,
presque bannis. Oui, oui.
S'il vous plaît, Arsène, est-ce que vous craignez, comme certains observateurs, une éventuelle révision constitutionnelle par rapport à toutes ces manœuvres affichées par les uns et les autres?
Mais ça se voit, c'est clair. C'est tout à fait clair où nous allons. Il y a déjà un feu qui fait voir directement où nous allons. Mais c'est très risqué. Vraiment, à ce moment, toucher sur un article, que ça soit verrouillé ou pas, toucher sur la Constitution aura peut-être une réaction fâcheuse. Il faut vraiment être prudent.
Moi, il faut que la question soit traitée.
Avec la révision constitutionnelle, dans n'importe quel article, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ceux qui pensent faire ça doivent être prudents dans tout ce qu'il y aura comme conséquence.
Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé les Kikwit. On va prendre Michel qui était à Matadi. Michel, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Ah oui. J'allais commenter qu'à la lire où vont les choses. Si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, il y aura un sérieux problème. Vous savez, lorsque Maluma nous s'est présenté au niveau de notre Assemblée nationale, vous avez vu comment il y a eu des camps. Il y a un autre camp de la majorité qui tapait sur les mains. Il y a un autre camp de l'opposition qui chiait Maluma. Ce qui veut dire, là déjà, il y a un problème. Moi, je crois, j'ai suivi Omar. Omar n'est pas un extraterrestre. Il vit ici au Congo. Et il connaît les réalités. Lorsque nous allons déjà comme ça en division, ça c'est les. vérité, on ne trompe jamais l'histoire.
Non, 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 Michel, en tout cas, la loi en démocratie, c'est toujours deux points de vue. On ne peut pas avoir l'unanimité, on ne peut pas marcher ensemble avec un même point de vue. Il faut les débats. Oui. Et les débats, disons, du fait d'exister sur cette terre, il y aura toujours les débats. Il y aura toujours deux sons des cloches, en tout cas en démocratie. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas que toujours la.
Alors,
même dans le vieux pays, dans le vieux pays de haute démocratie. Voilà, donc il y a toujours deux points de vue.
Les évêques ne se sont pas trompés. Je sais qu'en 2006, même en 2011, les évêques ont toujours parlé. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas changer la constitution, c'est seulement parce que cette constitution-là, nous avons tendance de l'élaborer sur base des individus. Lorsque nous allons aux élections de 2011, nous avons eu des élections présidentielles à un seul tour. Est-ce que vous vous tenez compte que cette réalité va nous rattraper maintenant, d'ici là? Donc, on ne peut pas en passer des choses. Il y a la sensibilisation. Veuillez voir aujourd'hui, les Congolais le disent. Lorsque les gens disent que, par exemple, pour le cas, que non, il ne faut pas des individus, il faut des institutions. Il ne faut pas des hommes forts. Mais je vous dis, au Congo, il faut d'abord laisser cette réalité. Même Dieu le dit, il veut la sanctification dans les humains. Aujourd'hui, la personne, si vous voyez cette pétition, c'est parce que Nadé Malumalu a eu d'abord à travailler. Si base de son comportement aujourd'hui qu'il y a toutes ces listes-là, alors moi je dirais, il ne faut pas banaliser la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous risquerons que les gens puissent prendre la carte d'électeur seulement comme une pièce d'identité. Et non pour qu'il aille déposer cette carte dans l'électeur. C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Michel.
Donc nous devons nous mettre tous ensemble pour voir. Parce que j'ai suivi l'autre fois à la RTNC. Dans l'émission Nouvelle Donne. J'ai suivi la position des membres de la majorité qui dit déjà, malgré le nombre de signatures que vous aurez, Malumalu ne quittera pas. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le problème des Philistins qui se présentent pour lui déjà, malgré ce que vous ferez. Non. Nous ne sommes pas en Israël.
Merci beaucoup,
c'est
Michel.
Que nous devons nous mettre tous ensemble.
Ouais, nous sommes au Congo. Voilà.
Pas. Pour terminer, j'allais dire, si en 2011, la main de Dieu n'était pas suspendue sur le Congo, je crois qu'on aurait des médecins.
Alors, non, non, Michel, je crois que nous ne pouvons pas être des prophètes de malheur. Les choses évoluent, que nous dirions comme tous les autres. C'est vrai, petit à petit, les choses s'améliorent. C'est vrai, tout ne s'arrange pas comme par coup de bateau magique. Mais petit à petit, on avance. Mais bon, à pas des tâtons.
On a l'espoir.
Bien entendu, merci beaucoup, on a l'espoir, Michel. Nous revenons à vous, professeur Bobo Kalala. Voilà, il y a des appréhensions, il y a des tons qui montent. Voilà, mais il y a quand même des doutes, Il y a quand même des doutes, et c'est vrai, on ne peut pas fédérer tous les points de vue, parce que nous sommes en démocratie, c'est normal, les points de vue sont parfois différents, les deux sont des cloches, mais comment arriver à concilier quand même les points de vue pour arriver à une cohésion nationale, à une cohésion, et surtout à cette question électorale?
Bon, moi, je crois que il faut que nous puissions entrer dans l'habitude d'organiser les élections à l'échéance fixée. Et une fois que nous prenons ces rythmes-là et que nous le respectons...
Et bien entendu, en respectant les textes.
Voilà.
Parce que quand on ne respecte pas les textes, voilà, il y a toutes des suspicions.
Voilà. Nous commençons à respecter les textes, nous prenons les rythmes, l'habitude d'organiser ces élections entre. Il faut aussi que dans le pays lui-même dégage le moyen financier pour organiser ses propres élections. On ne peut pas chaque fois qu'il y a élection commencer à dire il faut trouver l'argent à gauche, à droite, il faut chercher les partenaires. Ça ne nous fait pas respecter. La CENI a été mise en place pour organiser les élections. La CENI doit avoir les moyens pour pouvoir planifier les différentes élections et tenir ces élections le moment voulu. Je crois que c'est cette difficulté que l'équipe actuelle qui est à la CENI a, de réussir à harmoniser les différentes échéances. Alors, parfois, ça énerve les gens, mais nous devons être conscients aussi du déficit que ces bureaux a trouvé. Donc, les bureaux ici voudraient arriver à harmoniser les choses de manière durable, de manière à voir les échéances qui commencent à être tenu. Donc, au même moment qu'on s'énerve parce que on fait une proposition qui va modifier, n'est-ce pas, qui va énerver une disposition conditionnelle, nous devons aussi accepter que l'effort soit fourni de pouvoir harmoniser ces différentes échéances et que on commence à le respecter. Donc, de mon côté, je ne dirais pas directement que la CENI a péché de faire la proposition. La CENI essaie de rattraper les retards que l'on a connus. Regardez les Sénats. Le Sénat est en place. Le Sénat va terminer deux mandats sans être renouvelé. Ce n'est pas normal dans une démocratie. Dans une démocratie, lorsqu'on parle d'élection, on parle aussi nécessairement de mandat. Le mandat, ça veut dire la durée de validité du pouvoir que les électeurs vous ont donné. Ils vous ont élu pour 5 ans. 5 ans après, vous devez revenir pour que de nouveau on renouvelle ou on change des gens. Alors, le fait que, voilà, maintenant la CENI vient, il trouve, il y a un Sénat qui est là, on n'a pas pu le renouveler, parce qu'on n'a pas non plus renouvelé les députés provinciaux, et ainsi de suite. Donc, il faut arriver à organiser de manière à ce que les deux chambres du Parlement puissent être renouvelées au même moment. Et c'est tout un effort, c'est un calcul. Peut-être ce calcul, en disant, on va faire au suffrage indirect, on essaie de faire un calcul qui puisse faciliter telle ou telle opération, même si, malheureusement, ça va avoir comme conséquence de pouvoir toucher la Constitution, et ainsi de suite. Mais nous, les Congolais, nous devons être conscients de ces difficultés. Donc, il ne faut pas imaginer que le président de la CENI s'est assis comme ça un jour. Il s'est dit, voilà, je vais faire ça. Il essaye de faire des propositions qui arrivent à mettre toutes ces différentes échéances, si possible, ensemble, de manière à ce qu'on commence à les respecter chaque fois, après 5 ans, on renouvelle, ainsi de suite. Donc, nous devons d'abord être
conscients. Donc, si je comprends bien, le calendrier ou la feuille de route de la CENI tient relativement la route.
Leur feuille de route a l'avantage, justement, d'avoir cette préoccupation. C'est une préoccupation. Cette préoccupation de fixer les différentes échéances au même moment, arriver à trouver un rythme. Mais nous ne faisons pas cet effort-là. Alors, de temps en temps, on oublie un peu, et quand on se souvient, on essaie de se rattraper. Je crois que c'est important que, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la CENI, et de nous tous les Congolais, nous soyons conscients qu'il est nécessaire d'intégrer, parce que nous avons choisi d'organiser les élections, de désigner nos responsables, nos dirigeants en votant. Nous devons intégrer ça, on doit disponibiliser les fonds pour que, à chaque moment, on renouvelle tel groupe, ainsi de suite. Alors, je crois qu'une fois qu'on aura trouvé ce rythme-là, je crois qu'on n'aura pas à réviser chaque jour, n'est-ce pas, nos différents textes.
Voilà, on va prendre un dernier auditeur, Jean-Pierre qui est à Isiro et dit à Lumbashi. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs et participants des Paroles aux Auditeurs.
Voilà, vous avez une minute, juste une minute, parce qu'on n'a plus assez de temps avant de conclure avec notre invité.
Désolé. D'abord, par rapport au bien fondé, moi je pense que les personnes qui ont initié cette pétition ont bien raison, puisque l'abbé Maluma, au lieu d'apporter d'abord les débats au niveau de la nation, au niveau de l'Assemblée, pour que cela puisse être modifié au niveau de la Constitution avant de prendre, il a commencé lui-même par les mettre dans les calendriers. Et au deuxième niveau, c'est de voir comment Maluma est arrivé là, si ça va aboutir cette pétition. Et l'arrivée de Maluma au niveau de la CENI
nous revenons pas encore sur ça, on revient plus sur ça. L'arrivée des Maluma, on sait comment ça s'est passé. Bon voilà, ce n'est plus le débat, Jean-Pierre. Eddy, vous êtes à Lubumbashi, en 30 secondes, Eddy.
Merci beaucoup pour la parole, M. Gérard, mais entendre mes compatriotes, j'ai comme l'impression que le peuple congolais ne pénètre pas trop le dossier électoral en République démocratique du Congo. Je félicite la CENI pour avoir lancé le débat. Je félicite l'opposition, la société civile, même la CENCO, pour avoir réagi et avoir donné leurs propositions. Quant à moi, après avoir analysé, écouté les uns les autres, analysé leurs propositions, j'ai trouvé que la proposition de la CENI est très intéressante. Mais le problème, il faut aller au fond. Très intéressante pour 3 grandes raisons. Première raison, parce que Maluma le compte organiser les élections locales d'ici 2015. Avec les élus locaux, Les élus locaux là vont maintenant élire les gouverneurs, les sénateurs, les députés provinciaux, les bourgmestres ainsi que les maires. C'est-à-dire, il y aura d'abord
des rapidement. Deuxième raison, Eddy, parce qu'on a blessé la deuxième
gouverneur, raison. Il y aura élargissement du corps électoral.
Et troisième
les
raison.
Les gouverneurs ne seront plus élus par les députés provinciaux, mais maintenant,
merci beaucoup, élus Eddy. Locaux. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé. Professeur Boubacalala, nous allons conclure cette émission en une phrase. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a la pétition, il y a la proposition de la SENCO. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir?
En une phrase, je dirais que nous devons garder en tête le respect de nos textes. De l'autre côté, faire des efforts pour que les élections s'éteignent et se tiennent à des intervalles réguliers et de manière crédible. Ça nécessite que tout le monde mette un peu de sa bonne volonté, que la CENI discute avec les acteurs politiques qui sont des candidats prochains pour qu'ensemble il y ait des élections apaisées, qui ne soient pas contestées déjà à l'avance, et on n'a pas besoin d'ajouter des choses qui discréditent notre pays à l'extérieur quand on parle de nous par rapport aux élections. Ça ne nous fait pas honneur. On a intérêt à organiser des choses bien propres comme des gens civilisés et c'est bon pour nous tous.
Mais je crois que le problème ne pourrait pas se poser parce qu'il y avait une inquiétude d'un auditeur ici qui posait la question sur la nature même de cette pétition. Est-ce qu'elle est juridique, pédagogique? Qu'est-ce que vous répondez à...
Bon, là, je crois que c'est bon aussi qu'on ait des pétitions. Hein, parce que on a écrit ça dans les textes, on n'a pas toujours l'habitude d'avoir les pétitions. Pour les Congolais, je crois que c'est bien qu'une fois qu'il y ait une pétition, que les gens voient qu'il y a une pétition. Mais maintenant, par rapport aux visées de ça, je crois que peut-être ça nécessite que tous les Congolais regardent. C'est normal que l'opposition fasse ce qu'elle fait, à chacun d'apprécier. Hein.
Voilà, merci beaucoup professeur Boubacalala d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement de ce studio pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, les auditeurs fidèles de Parole aux auditeurs. Une fois encore merci et très bonne semaine à vous.
Merci Gilles.
Voilà, c'est fut un grand plaisir pour nous de partager ce moment avec vous, Héritier Sidi Akala. Vous avez eu à assurer la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Meji, coordonné et présenté par J.R. Lungembo. À vous tous qui avez aussi suivi cette émission, nous vous disons merci. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi. À très bientôt et très bonne semaine à vous tous.